Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Une semaine de plus au moins. Donc bonjour à tous, voici donc dans les arènes de l'écologie pour notre émission du 5 novembre. J'espère que j'ai pas fait de bêtises avec les boutons. Non, bon, voilà, excusez-moi. Oui, alors donc aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale, une émission après la première émission qu'on avait consacrée à la COP climat, et comme on fait jamais les choses comme tout le monde, on s'est dit, puisque tout le monde parle de COP climat, nous on va parler de biodiversité. Alors c'est vrai que la COP biodiversité a fait l'impasse cette année, passe son tour, fait moins de grandes réunions internationales que sur le climat. Mais donc voilà, on a rassemblé autour de notre table trois personnes. Alors il y avait deux invités pour la biodiversité. Donc Nathalie Morata de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, et puis Chloé Durieux pour Biodiversa, le partenariat européen pour la biodiversité. Et puis il y a aussi Pauline. Alors Pauline qui non seulement s'est présentée pour nous faire la chronique littéraire du Felipe, va nous faire le coup de chapeau de Felipe. Donc, mais elle est aussi spécialiste de biodiversité, donc elle pourra complètement participer à la conversation de ce soir. Donc voilà. Donc Chloé et Nathalie, on reviendra vous voir très vite. Mais ce soir donc, comme je le disais, il y a la COP climat qui commence à prendre toute l'attention. C'est plutôt sympa de voir, je trouve, qu'il y a plus d'attention que les précédentes années. C'est vrai que, comme nous le disaient nos invités la semaine dernière, Mark Thunman, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. L'accueil à Rio a l'air d'être plus intéressant qu'à celui de Bakou. En tout cas, je dirais les rapports de force et les sujets avancent bien. Il y a eu plutôt des bonnes nouvelles aussi. On a appris que le Brésil avait, pour première fois depuis au moins bien longtemps, baissé ses émissions de CO2. Et puis le scoop du jour, c'est que l'Europe a réussi à se mettre d'accord pour avoir une position commune sur des engagements pour cette COP climat. Alors, autre petite nouvelle du secteur, c'est que j'ai appris qu'à l'Académie du climat à Paris, on va faire des retransmissions en live de la COP à Belém. Donc, à 17h, le 14 novembre, le 17 novembre et le 21 novembre, il y aura une retransmission en direct, du moins duplex, avec les associations de jeunes parisiens qui sont partis à Belém, donc le réseau Action Climat, les jeunes ambassadeurs pour le climat, et puis l'association Get Up, qui est une association, plutôt, m'a-t-on dit, spécialisée sur les sujets d'écologie dans les périphéries, dans les quartiers, comme on dit, à Paris. Voilà, mais bon, peut-être qu'on va en arriver à notre fameuse chronique littéraire de Pauline. Allez.
Exactement, bonjour à toutes et tous. Alors oui, pour cette première chronique, j'aimerais rebondir sur la COP30, donc qui va s'ouvrir dans quelques jours au Brésil, parce que cette COP, qui va rassembler donc les dirigeants du monde entier pour lutter contre le réchauffement climatique, elle est symbolique, puisqu'elle va marquer les 10 ans de l'accord de Paris. Bon, on sait déjà que le bilan est plutôt mitigé, car si le rythme de croissance des émissions de CO2 a ralenti à l'échelle mondiale, des scientifiques nous ont déjà annoncé cet été que l'objectif de l'accord, qui consistait à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, était hors d'atteinte. Mais alors pourquoi ? Pourquoi l'humanité est-elle dans l'incapacité de préserver ses conditions de vie sur Terre ? Qu'est-ce qui se joue ? Et comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Alors pour y réfléchir, j'aimerais vous parler de deux livres. Le premier s'appelle « Perdre la terre » de l'ex-journaliste et essayiste américain Nathaniel Rich. Dans cet essai qui a été publié en 2019, l'auteur raconte le moment où l'humanité était à deux doigts de se sauver. Ce moment, cette occasion manquée, c'est une décennie, celle des années 80, où l'auteur nous dit que les conditions d'un succès étaient si parfaitement réunies qu'on aurait presque dit un conte de fées. À cette époque déjà, presque tout ce qu'on sait aujourd'hui du réchauffement climatique est déjà connu. L'opinion publique américaine est favorable à la mise en place de politiques climatiques rapides. Des hommes et des femmes politiques de tous bords s'engagent publiquement en faveur de mesures environnementales. Et rien qu'en 1988, plus de 30 projets de loi allant dans ce sens sont déposés. Le président Jimmy Carter va même installer des panneaux solaires sur le toit de la Maison Blanche. Bref, tous les feux sont au vert et les États-Unis, première puissance mondiale, sont sur le point de prendre la tête du mouvement de la lutte pour le climat. Et puis, en 1989, tout s'effondre à l'occasion du premier grand sommet sur le réchauffement climatique aux Pays-Bas. Alors, c'est pas encore la COP, mais déjà, face à l'urgence, une soixantaine de pays s'est réunie pour adopter une proposition visant à geler les émissions de carbone pendant 10 ans. Cet accord sera finalement rejeté. Derrière ce qui est perçu comme un sabotage, on retrouve une partie des grandes entreprises américaines, issues notamment du secteur des énergies fossiles, qui n'ont pas l'intention de remettre en cause les intérêts économiques. Elles se regroupent en lobby et des millions de dollars sont dépensés pour acheter des scientifiques ou commander des contre-enquêtes avec un objectif en tête, semer le doute sur la réalité du réchauffement climatique. Et l'histoire nous a prouvé que ça avait marché. Ce que nous raconte ce livre, c'est le début de l'offensive de l'industrie pétrolière et gazière qui n'a jamais faibli depuis. Pour rappel, l'année dernière, plus de 1500 lobbyistes des énergies fossiles étaient présents à la COP29. Et tout ça alors que sous nos yeux, la Terre brûle. La Terre brûle, c'est le titre du second ouvrage dont j'aimerais vous parler aujourd'hui qui a été publié à la rentrée, donc il est tout récent. Il a été écrit par l'historien Sunil Amrit et il répond à la question suivante. Comment en sommes-nous arrivés à une crise planétaire d'une telle ampleur? Le livre vertigineux retrace plus de 1000 ans d'histoire du XIIe siècle à nos jours et en analyse des moments clés. Connus ou moins connus, comme l'explosion de la culture du riz dans la Chine médiévale, l'expansion coloniale des Européens ou les guerres du XXe siècle. Mais ce livre raconte aussi la prise de conscience d'un historien sur le lien inextricable qu'il existe entre écologie et justice sociale, entre la crise de la vie terrestre et la liberté. Des questions qui peinent encore à être prises en compte dans les négociations internationales. Alors, je terminerai cette chronique avec une citation tout droit tirée de la conclusion du livre. Lorsque j'ai commencé ma carrière d'historien, je considérais les questions écologiques comme secondaires par rapport à celles des droits politiques, de l'émancipation économique et de la justice sociale. Je crois à présent qu'elles sont indissociables et que la poursuite de la justice environnementale s'inspire du prolongement des combats antérieurs pour la liberté humaine, toujours inachevés, dans lesquels elle s'inscrit pleinement. Cette découverte, je ne la dois pas seulement aux années de recherche qui ont nourri ce livre, mais également à mes propres enfants. Ils ne se bercent d'aucune illusion quant aux défis qui les attendent, et ils ressentent le besoin viscéral, comme pour donner une valeur à leur existence, de réparer la relation de l'homme avec le reste de la nature. Pourquoi les gens détruisent-ils la terre alors que c'est leur maison ? M'avait demandé ma fille, alors âgée de 5 ans.
Eh bien, c'était une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes peuvent se la poser et se la posent. Vous rencontrez beaucoup. Alors, je rappelle qu'on va faire une émission spéciale Génération Z le 3 décembre sur cette thématique. Avoir 20 ans sur Terre en 2025, la Génération Z et l'écologie, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre ? Qu'est-ce qu'on peut échanger aussi ? Alors donc, bon, on va revenir à notre thème du jour, hein, la question du climat. Si, je crois que nous cite quand même les éditeurs. Pour oui, savoir alors. Où trouver ces deux livres qui m'ont l'air passionnants.
Oui, bien sûr. Alors, Perdre la Terre, c'est aux éditions Point. Et La Terre brûle, qui vient tout juste de sortir, a été publié aux éditions Albin Michel.
D'accord. Bah, écoutez, ce sera plus facile pour le commander auprès des libraires.
Exactement.
Voilà. Alors, donc, ce soir, on va parler de biodiversité. Non pas qu'on... Donc oui, alors la biodiversité, c'est déjà c'est un mot qui est un peu délicat. Ça veut dire quoi exactement? C'est pas si vieux que ça. C'est pas un nom. C'est pas la nature. C'est pas le vivant. C'est plus complexe.
La biodiversité. Nathalie. Oui, la biodiversité. C'est vrai que c'est un mot qui a l'air compliqué,
un peu fourre-tout,
mais il l'est pas
quoi.
En fait, parce que finalement, c'est la diversité de toutes les espèces qu'on peut trouver sur Terre. Donc, il y a des fleurs, il y a des arbres, il y a des espèces de la faune. Tout ça, ça crée la biodiversité en son ensemble. Donc, c'est un ensemble de tous les êtres vivants sur Terre.
D'accord, parce qu'avant, les naturalistes fonctionnaient peut-être par classe, par genre. Donc, c'est pas que les êtres vivants. La biodiversité, c'est aussi, je dirais, les écosystèmes, les biomes. Alors ça, c'est le nouveau nom qui me perturbe, parce que moi, à la fac, on parlait pas de biome encore. Donc, je suis pas tout jeune, mais je suis pas non plus trop vieux. Donc, il y a des nouveaux noms comme ça qui apparaissent, qui transforme un peu notre perception des choses. Mais alors, la biodiversité, donc ça va de l'ensemble de la planète, donc ces grands écosystèmes de la planète, jusqu'aux microbes. Ça, c'est ça qui est un peu perturbant. C'est qu'au final, il y a tout un continuum d'échelle, donc, d'où le titre de l'émission. C'est pas simplement pour faire un petit clin d'œil à Jean-Claude à Mézène, c'est aussi parce que les échelles géographiques, que je connais un petit peu, c'est un grand emboîtement, et donc effectivement la biodiversité, c'est un petit peu comme ça, tout s'emboîte un peu comme des poupées russes, et pour les comprendre, il faut travailler à ces différentes échelles. Mais pas que, vous m'expliquez qu'il faut aussi travailler pour articuler, je dirais, les gens, les scientifiques et les politiques pour passer à l'action. Donc c'est bien ça, Chloé, que vous faites.
Oui, tout à fait. Donc moi, je travaille pour Biodiversa Plus, qui est le partenariat européen pour la biodiversité. C'est un partenariat qui a été créé dans le cadre du Pacte Vert, qui a été lancé en 2021.
Donc c'est quelque chose de bien sérieux. C'est une émanation, on va dire, de la Commission européenne.
Exactement. C'est un partenariat qui est cofinancé par la Commission européenne et un ensemble de partenaires. Aujourd'hui, on est 81 partenaires. Et les partenaires, ce sont des ministères en charge de l'environnement, de la recherche, mais aussi des agences nationales de financement de la recherche ou des agences nationales de protection de l'environnement. Donc c'est une coalition de tous ces acteurs pour financer de la recherche pan-européenne. Et en effet, comme ce que vous le disiez, nous on travaille vraiment à cette interface du monde académique, des communautés d'expertes et d'experts au niveau européen, mais pas que. Et la valorisation de toute cette recherche au niveau des décideurs à plusieurs échelles, nous notamment aussi avec un focus européen.
Alors pourquoi fallait créer une structure spécifique pour faire travailler ensemble les politiques et les scientifiques? Alors peut-être aussi pour décrire le schéma au niveau mondial, on peut peut-être parler de l'équivalent du GIEC qui est moins connu.
Donc, L'IPBES.
L'IPBES, et qui est aussi important que le GIEC. Il y a combien de scientifiques, combien de pays qui travaillent sur ce sujet-là?
Alors, c'est vrai que l'IPBES a été créé après le GIEC, donc il est un peu moins connu du fait qu'il soit...
Donc, il est beaucoup moins connu.
C'est une plateforme plus jeune, voilà, mais c'est vraiment l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Donc c'est le même principe que le GIEC, c'est des scientifiques qui se réunissent pour mettre en commun leurs informations scientifiques. Donc sur ça, ils font des rapports sur divers thématiques. Il y a eu
pour dégager rapports... une espèce de consensus de la communauté scientifique, c'est...
Alors,
ça
c'est
le
but ça. Du jeu. L'idée, ce n'est pas de créer des nouvelles informations scientifiques, mais c'est de faire une synthèse un peu de tout ce qui existe sur ces sujets. Donc par exemple, il y a eu des rapports sur les pollinisateurs, sur l'exploitation des espèces sauvages, sur les espèces exotiques envahissantes, voilà, donc divers. Les derniers, c'était sur le nexus, alors ça c'est un concept un peu plus compliqué, mais c'est sur le lien entre la biodiversité, le climat, l'eau, l'alimentation et la santé. Donc en fait, tout est lié. Donc il y a aussi des rapports comme ça qui regarde aussi le lien avec la biodiversité et d'autres éléments. Et donc, ces rapports sont faits par des scientifiques qui se réunissent, donc des milliers de scientifiques qui vont faire un gros rapport. C'est souvent plusieurs, jusqu'à des milliers de pages, hein, donc c'est un gros rapport. Donc là, ils vont mettre toutes leurs connaissances et ils vont estimer est-ce que c'est des connaissances robustes, est-ce que c'est des connaissances qu'il faut confirmer. Donc il y a aussi une évaluation à quel point ce sont des connaissances confirmées ou pas. Et ensuite, les 150 États qui font partie de cette plateforme.
Donc les fameuses parties.
Voilà, exactement.
Donc il n'y en a que 150, il n'y a pas les 194 comme au...
Il y en a 152, ouais. Je crois.
oui, c'est, je crois donc il y a 42 pays qui manquent.
Il y a eu des nouveaux récents, donc du coup je ne sais plus si je les ai ajoutés à mon addition ou pas. Mais donc en fait, ces pays se réunissent lors d'une plénière, en général chaque année, et ils vont ensemble décider d'un rapport, d'un résumé pour décideurs politiques. Donc ils vont se baser sur le rapport qui a été fait par les scientifiques, les 1000 pages, et ils vont extraire des messages qu'ils veulent faire passer aux scientifiques. Aux politiciens. Pardon.
Alors, donc, les derniers grands messages, c'était lesquels ?
Bah là, donc le dernier, donc le rapport de l'an dernier, c'est, qui a été donc discuté entre tous les pays, c'était le rapport sur le Nexus, donc sur ces liens. Et je pense que le message principal était que tout est lié. On ne peut pas aborder en fait chacun des éléments, la biodiversité ou la santé ou l'eau, on ne peut pas les aborder indépendamment. Le message, c'était vraiment qu'en fait, si on veut vraiment protéger la nature et protéger tout ça, il faut envisager ces sujets ensemble. Ça, c'était vraiment le rapport de l'an dernier qui est sorti. Il faut arrêter de penser en silo. Des fois, par exemple, quelque chose qui va être bien pour le climat va être néfaste pour la biodiversité. Donc, il faut vraiment arrêter de penser à toutes ces crises indépendamment.
Alors... on peut agir pour la biodiversité, pas simplement au niveau mondial, j'imagine.
Ah, bien sûr.
Donc, on peut descendre dans les échelles. Alors, on est descendu dans l'échelle européenne. En France, pour les pays, bon, il y a différentes. Il y a l'échelle nationale avec le muséum, avec l'office, l'OFB. Il y a la Fondation pour la biodiversité. Alors, on va peut-être en parler. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fondation ? Alors, elle n'est pas si vieille que ça, en plus. D'habitude, des fondations, ça a 150 ans, un tout. Ah.
Non, effectivement, c'est une fondation qui est plus jeune, puisqu'elle a été créée en 2008, suite au Grenelle de l'environnement. Donc, elle a été créée par... donc, elle est à l'initiative du ministère de la Recherche et elle a été créée par les instituts de recherche publique, le CNRS, le CIRAD, l'INRAE, voilà. Donc, pour essayer de travailler ensemble autour de la biodiversité pour mieux se fédérer. Donc, son but, c'est vraiment agir en tant que plateforme d'intermédiation avec les acteurs aussi bien scientifiques que les acteurs publics, privés, et essayer de travailler tous ensemble pour faire passer des
Alors
messages.
Alors, ça se concrétise comment ?
Ça se concrétise comment ? Donc, on est répartis en divers sujets. Donc, on parlait tout à l'heure de l'IBES, donc l'IPBES, donc le GIEC de la biodiversité. Donc, ce qu'on fait dans la Fondation en particulier, donc on travaille, on a créé... quelque part un sous-groupe de l'IPBES, on a créé un comité français pour l'IPBES. Donc dans ce comité français qu'on anime, on réunit des acteurs de la recherche qui ont des messages à faire passer, on réunit les gens des ministères, les politiciens qui vont ensuite aller négocier ces sujets, qui vont ensuite les utiliser dans leur politique. On réunit aussi divers acteurs, divers parties prenantes, des associations, des communautés, des entreprises. Et on essaie de discuter tous ensemble. Donc,
alors, on discute de quoi parce que...
Alors, donc là, concrètement, par
oui,
exemple,
voilà.
Donc là, l'IPBES veut faire un rapport sur, on en parlait tout à l'heure, le rapport Nexus de ces liens. Donc là, ils décident du sujet et les chercheurs vont travailler, vont devoir travailler. Donc déjà, nous, on essaie... d'expliquer aux chercheurs et aux divers experts français qu'est-ce qui va se passer dans ce rapport et de les inciter à participer au rapport. C'est une manière pour amener l'expertise française dans l'écriture du rapport lui-même. Ensuite, lorsque le rapport va commencer à être écrit, eh bien, il va y avoir des relectures. Ils vont envoyer ça à tous les participants, toutes les parties, pour pouvoir relire et donner des commentaires. Donc nous, on va aller retourner vers notre comité et on va leur proposer le texte et on va leur dire est-ce que vous avez des commentaires à ajouter, est-ce que vous avez...
C'est une opération de validation.
Alors, c'est une validation, mais c'est aussi notre chance de faire passer des messages. Si on a des références, des études françaises qu'on essaie de valoriser, c'est l'occasion de faire remonter ces informations.
Alors, sur ces questions de biodiversité, on a souvent parlé de la chute des populations d'insectes. Est-ce qu'il y a de plus spectaculaire? Si on avait un chiffre à retenir, au moins des dernières années, ce serait celui-là. On a perdu 80%, semble-t-il, de la population d'insectes. Il y a plein d'autres sujets où on ne sait pas. Les microbes, on a beaucoup de mal à les dénombrer, à les compter. Et on ne sait pas si ça se maintient ou si ça chute. Mais sur cette question des insectes, c'est quand même très spectaculaire. Et alors, c'est donc une étude allemande de 2017, si je ne m'abuse, qui avait sorti ce scoop. Bon, qui n'a pas détonné, qui n'a pas bousculé beaucoup les journaux du 20h, hein, je vous l'accorde. Mais je dirais que dans les cercles écologiques, du moins les gens qui s'intéressent à ces sujets-là, on a retenu ça, c'est frappant quand même. Alors, comment on traite, est-ce que ça fait partie de ces thématiques fortes que vous devez traiter au niveau...
Là, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, il y a eu un rapport de l'IBES exprès sur les pollinisateurs et le déclin des pollinisateurs. Donc ça fait partie, vous citez un article, mais c'est le genre de rapports qui ont permis aussi de mettre en évidence ce genre de problèmes.
Parce qu'on a un peu l'impression que les naturalistes qui s'occupent de biodiversité, chacun dans son coin avec ses papillons, avec ses scarabées, à la grande galerie, là, à quelques pas du studio, donc au muséum, il y a plein de collections. On a cette collectionnite aiguë des naturalistes. C'est un peu ça que vous cherchez à, non pas à briser, mais à...
Nous, notre but, c'est vraiment faire remonter l'information scientifique. Alors, les collections du muséum, c'est une chose, mais il y a plein d'autres... c'est vrai qu'on pense toujours de suite à la biodiversité, on va penser aux papillons. Je ne sais pas pourquoi tout le monde imagine toujours un papillon. Hein. Mais il y a plein d'autres, la biodiversité, comme vous l'avez dit, hein, ça va jusqu'aux microbes. Voilà, c'est toute cette diversité qu'on veut garder. Et donc, notre but, c'est faire en sorte qu'on aille au-delà de la collection de papillons.
Donc on est plus dans les mécanismes, dans les systèmes.
Exactement. On veut faire remonter des informations, justement, au-delà de la collection de papillons, d'autres informations, d'autres chercheurs, d'autres scientifiques qui ont des messages à faire passer.
Donc c'est de l'interdisciplinarité par définition, si je comprends.
On appelle ça de l'interface science politique.
Voilà, c'est beaucoup plus compliqué que...
c'est vraiment, en fait, faire le lien entre des communautés de sachants, entre guillemets.
Oui, alors il faut déjà faire parler les sachants entre eux. Ça, c'est l'interdisciplinarité.
Voilà, exactement. Et ensuite, il faut, donc une fois qu'on a fait l'interdisciplinarité, et c'est pas facile de faire parler, parce que les sciences, c'est aussi bien des sciences naturelles, les papillons, mais ça va inclure aussi des sciences sociales, ça va inclure aussi peut-être la perception de la société sur certains sujets, des sujets économie, ça va au-delà de la collection de papillons en fait. Donc c'est vraiment tout cet aspect qu'on essaie de fédérer et ensuite d'utiliser pour faire remonter aux décideurs politiques. Donc là, de faire cette interface entre les scientifiques et les politiques. Donc d'un côté, les scientifiques, on essaie de leur faire des formations et de leur sensibiliser pour qu'ils comprennent mieux les besoins des politiciens. Et d'un autre côté, on va voir les politiciens, on essaie de comprendre leurs besoins et on leur explique ce que les scientifiques peuvent leur apporter.
Nathalie, on va avoir besoin d'exemples pour bien saisir tout ça, mais on va se donner une petite respiration avec notre première pause musicale. Donc, une pause... choisie par Sabline, représentante de la Gen Z. Elle nous a choisi une musique. Carmen va nous envoyer.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
The president of Pluto.
Fire, man.
desperado. Many, many. My amigo. Balotelli. Ladies taking me photo. Paparazzi. Ah. Don Julio. Don Diami. Ego me deo. La o. Ni pesta za o la o. Aza me trao la o.
Eh bien, nous voici revenus dans les arènes. Alors, c'était Chali Poppy, un chanteur très connu au Nigeria, mais aussi, je crois, sur nos ondes. Bon, je découvre. Voilà. Merci, Sabline. Tu m'as encore fait découvrir une nouvelle musique. Bon, alors, on voulait parler d'exemples. Chloé... lever le doigt pendant la pause musicale pour dire est-ce que je pourrais présenter un exemple. Et bien évidemment.
En fait c'est ça, sur cette notion d'interface science politique, parfois ça peut être un peu flou, et dans le cadre de mes missions je coordonne deux programmes de recherche dont un qui traite le sujet de la restauration de la biodiversité.
Donc, où ça?
En Europe, là, pour l'instant.
Toute l'Europe,
en fait, c'est ça, ce sont des consortiums d'équipes de recherche pan-européennes, donc il y a au moins une équipe dans un minimum de trois pays membres de l'Union européenne qui proposent en fait des projets pour répondre à la thématique de la restauration. Et ainsi, en 2020, il y a 22 projets de recherche qui ont été retenus pour une durée de 3 ans. Il y a eu une extension avec le Covid qui a permis une extension des projets d'une année à cause des retards que ça a pu causer. Et en fait, en cours de route, et là, pour moi, c'est tout l'enjeu de l'alignement des agendas de la recherche et de l'agenda politique. C'est parfois difficile d'anticiper en amont un alignement de cet agenda-là, et parfois ça se fait qu'on prévoit ou pas forcément, parce que si vous suivez l'actualité politique de la biodiversité à l'échelle européenne, vous avez peut-être vu qu'en juin 2024, le Conseil de l'Europe a adopté le règlement pour la restauration de la nature. Donc c'est une réglementation inédite. Justement, l'objectif...
Remettre des fleurs au balcon.
L'objectif, c'est de restaurer d'ici 2030 20% des écosystèmes européens, avec l'objectif aussi de, d'ici 2050, restaurer l'ensemble des écosystèmes qui sont dégradés. C'est un objectif qui s'aligne aussi
les prairies qui ont disparu, toutes ces surfaces qui sont artificialisées.
C'est pour ça qu'on mobilise des équipes de recherche aussi sur le sujet, pour avoir ces recommandations, ces préconisations, et qu'il y a tout un enjeu, on le dit, à l'interface science politique, mais aussi à l'interface science politique pratique, avec les personnes du terrain, les gestionnaires d'aires protégées ou autres espaces. Et donc, en tout cas, pour la mise en œuvre de ce règlement,
tous les États membres au niveau européen doivent soumettre en septembre prochain, septembre 2026, des plans nationaux de restauration. Donc c'est vraiment le dispositif qui leur permet d'adopter, de montrer à la Commission comment ils ont prévu de répondre à ce règlement, avec quels indicateurs, pour adresser, répondre à quels objectifs.
Donc cette restauration, elle va cibler des espèces, des milieux, des types d'écosystèmes
Exactement, bah, elle a des cibles qui sont tant sur des espèces, mais aussi sur des habitats. Donc par exemple, restauration de certaines rivières, restauration de certaines forêts, restauration de certaines espèces qui ont été... Voilà, il y a eu tout un travail pendant plus de 3 ans de discussion autour de cette loi qui a fait beaucoup débat dans les instances de l'Union européenne, notamment quand il advenait de définir les objectifs dans les milieux agricoles et fonciers. Et donc nous, enfin en tout cas avec nos projets de recherche en cours, ce qu'on a mis en place dans le cadre de Biodiversa Plus, donc de ce partenariat européen pour la biodiversité, c'est qu'on a créé des dialogues avec les représentants des États membres au niveau national, qui sont responsables de la rédaction de ces plans nationaux de restauration, donc cette mise en œuvre de ce règlement-là, et des experts issus des projets de notre appel à projet, ce qui permet en fait de mieux identifier ce dont les États membres ils ont besoin en fait, quel type de données, quel type d'indicateurs, quel défi ils rencontrent pour la mise en œuvre de cette nouvelle loi inédite qui leur demande d'avoir parfois des données en dehors des zones où il y a de la surveillance de la biodiversité. Donc comment on fait pour répondre à ça? Comment on fait pour répondre sûrement aussi des zones transfrontalières? Parce que c'est facile d'avoir parfois un inventaire au niveau français, par exemple, mais sur la région alpine entre la France et l'Italie, qui a les données, comment on fait, etc. Et donc ce qu'on met en place dans le cadre des activités du partenariat, donc à cette interface sciences politiques, c'est notamment de créer ces dialogues entre des membres de la communauté scientifique qui travaillent sur ces sujets et des experts qui ont besoin, là, en ce moment, tout de suite, de ces données-là. Donc, c'est vraiment un alignement dans les agendas.
Chloé, on a l'impression que c'est surtout les élus de terrain qui vont être concernés. Est-ce qu'il y a un rapport? Comment Natura 2000 intervient dans ce dispositif? Puisque Natura 2000, c'était la grande question de la biodiversité, mais il y a 20 ans. Donc, comme son nom l'indique, ça s'est fait à peu près autour de 2000. C'était une opération et qui existe toujours, bien évidemment, mais qui est tout à fait importante. Il y a 1000 sites répertoriés en France et ça avait été vendu par la Commission européenne, par l'Europe, les ministères et autres, comme un moyen, pas simplement de protéger, mais aussi de recréer une meilleure relation homme-nature. Quelque part, ce réseau Natura 2000 doit être complètement intégré dans votre action.
Oui, il l'est en effet de cette façon-là. Après, moi, je ne suis pas experte de Natura 2000, mais vous voyez, pour la mise en œuvre de ce règlement-là, les premiers sites priorisés, parce que si c'est OK à l'échelle de la France, quels sont les sites prioritaires en fait à restaurer? Et là, il y a plein d'enjeux politiques. De la recherche. Par exemple, la communauté scientifique va identifier un tel lieu, une telle prairie, une telle forêt comme prioritaire à restaurer, mais politiquement, ça va être plus compliqué d'agir là-dessus. Et aussi, les communautés locales. C'est bien facile de vouloir restaurer, mais parfois, quand c'est dans son jardin, on a moins envie que ça soit restauré. Donc, ça pose plein de conflits de la restauration. Et ça, ces enjeux-là, c'est aussi des enjeux qu'on adresse dans le cadre, qu'on traite dans le cadre du partenariat à la restauration. Et on parlait la biodiversité avec ce terme un peu plus vaste que juste un terme écologique. On traite, oui, d'enjeux d'écologie scientifique, mais aussi d'interdisciplinarité. Vous le mentionnez avant, en fait, quels sont les conflits autour de cette restauration? Quelles sont les gouvernances d'aires protégées? Quelles sont les gouvernances de lieux qu'on restaure? Qui sont mobilisés aussi dans les approches participatives?
Ça va concerner directement les élus locaux, ça.
Et donc, ça concerne aussi directement les élus locaux. Après, nous, dans le cadre du partenariat, on reste... dans cet exercice-là, vraiment une échelle de l'Union européenne, donc avec les États membres, donc avec les représentants nationaux, on ne va pas jusqu'à l'échelle locale, parce qu'on est sur la rédaction de ces plans-là. En revanche, dans chaque État membre, en fait, normalement, il y a un groupe et ils peuvent travailler avec des échelles plus locales. Nous, dans le cadre de partenariat, on ne va pas jusqu'à cette échelle-là.
D'accord. Donc, il serait où les responsables qui doivent faire descendre la biodiversité?
Ils sont dans les ministères de l'Environnement qui sont, eux, en charge de la rédaction de ces plans attendu par la commission pour septembre.
D'accord, 2026. Donc il faut qu'on repère monsieur Plan Biodiversité ou madame Plan Biodiversité. Ok, bah écoute, Pauline, tu as peut-être commencé à mener l'enquête, toi ?
Oui, bah, pas encore. Mais j'ai une question. Est-ce que vous avez peut-être observé une évolution dans la prise en compte des messages de biodiversité par les politiques ces dernières années ?
Alors, au niveau des négociations internationales, donc on parlait des COP biodiversité, bon, il y a COP climat, COP biodiversité. Idéalement, on aimerait que les scientifiques, donc c'est ce qu'on essaie de faire, que les scientifiques aient leur voix. De plus en plus, ces instances, elles deviennent très politiques. Du coup, c'est un peu c'est intéressant parce que du coup, les politiciens se saisissent de ces messages. Je trouve que ces dernières années, on entend de plus en plus... par exemple, j'ai entendu un ministre parler de l'IPBES. J'étais hyper contente. Je me suis dit, ah ben, ça y est, en fait...
Et vous vous souvenez du nom de ce ministre ?
On va pas donner des noms au micro, voyons.
Parce qu'avant, c'était pas le cas. On mentionnait le GIEC, mais pas l'IPBES.
Exactement. Ce jour-là, je me suis dit, bon, voilà. Et pour avoir participé aux négociations avec des membres du ministère des Affaires étrangères qui sont en charge, je sais que la négociatrice a fait remonter au ministre une note où elle faisait part de ce qu'on avait fait dans l'IBES. Et j'étais hyper contente de voir ensuite le ministre mentionner l'IBES lors de conférences. Donc je me dis, de plus en plus, les politiciens sont au courant de ces processus, sont au courant que la science a sa place, sont au courant de ce qui est remonté.
Il faut quand même pousser très fort pour qu'un ministre des Affaires étrangères puisse prononcer ne serait-ce que le nom de...
Écoutez, je vais vous raconter ma vie.
Oui, moi, voilà.
Parce qu'on n'a pas commencé par ça, on devait commencer par raconter nos vies. Oui. Et finalement, en fait, moi, à la base, j'ai fait de la recherche pendant 15 ans. Donc, j'étais une chercheuse, je travaillais sur l'impact du changement climatique sur les écosystèmes marins arctiques. J'allais sur mes brise-glaces et j'observais la glace qui fondait, les écosystèmes qui changeaient, les animaux qui changeaient de comportement et personne qui faisait rien. Ça me désespérait. Donc, après 15 ans à observer cette glace disparaître, j'ai eu envie de passer de l'autre côté. Alors, d'un côté, je me disais, les politiciens, qu'est-ce qu'ils veulent entendre, ce qu'on fait ou pas, à quoi ça sert? Et d'un côté, je me disais, de toute façon, je ne crois plus en ma recherche, parce qu'en fait, la recherche, elle reste ce que j'observe, ça ne passe pas au niveau d'après.
Ça, c'est du vécu, ça.
Ah ben oui, voilà, c'est 15, ça y est, là, 15 ans sur la glace.
Là, on est dans les bonnes échelles.
Et donc, j'ai découvert, il y a quelques années, la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité. Je me suis dit, c'est là que j'ai envie de travailler, parce qu'en fait, c'est vraiment faire le lien entre la science et les décideurs politiques. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc, du coup, j'ai rejoint la Fondation et j'ai participé à ces négociations avec ces gens, ces politiciens où j'avais un gros préjugé jusque-là. Et j'ai totalement changé d'avis. Ce sont des personnes qui ont envie d'entendre le message scientifique, qui s'intéressent. On fait, comme je disais tout à l'heure, on fait des réunions où on les mêle aux scientifiques, aux politiciens. Ils sont toujours là, ils ont des questions. Enfin, c'est hyper productif. On fait les négociations ensemble et ensuite, je vois que les messages qu'elles font remonter sont pleins de convictions de ce qu'on a fait et sont ensuite entendus par les ministres qui ensuite citent l'IBES. Donc vraiment, moi, je trouve que c'est... j'ai une petite satisfaction personnelle parce que je vois l'évolution. Je vois qu'il y a quelques années, les scientifiques, on ne les écoutait pas. Et là, il y a ce processus qui s'améliore. Il y a des gens qui sortent de Sciences Po, qui comprennent la science et qui ont envie, du coup, de travailler à l'interface entre la science et la politique, qui sont ensuite capables, du coup, de faire remonter au ministre et qui ensuite parle de l'IBES lors de son discours. Donc, moi, je suis contente.
Et aussi, je pense aussi à un autre exemple, c'est que, et même ça se reflète dans les appels à projets de recherche ou comment sur quel sujet la recherche s'oriente au niveau européen, mais aussi au niveau national. Je pense à toutes les échelles, même au niveau international, dans l'IPBES que mentionnait Nathalie avant. C'est qu'il y a 10 ans, on parlait de protection de la biodiversité, on faisait de la recherche, comme vous le mentionnez, sur certaines espèces, leur déclin ou autre. De plus en plus, c'est ce que encore je redis tout à l'heure, mais on va dans cette interdisciplinarité, en fait, comprendre que la biodiversité, on ne l'observe pas en silo par rapport au climat. Elle est liée au climat, à l'agriculture, à l'alimentation, à comment on se nourrit.
Ça veut dire que les thèmes de recherche changent, évoluent.
Exactement.
Mais comment... parce que nous, je dis nous, auditeurs, citoyens, habitants, tout ça confondu. On se dit, mais qui va définir les urgences? Qui va hiérarchiser les priorités? C'est un peu là-dessus qu'on vous attend, qu'on attend le monde scientifique. Est-ce que... oui, donc moi, très, très clairement, pesticides et biodiversité, ça me préoccupe. Pollution aux nanoplastiques et biodiversité, ça m'interpelle.
C'est des sujets, donc, comme je vous disais, on fait des rapports thématiques à l'IPBES, donc le GIEC de la biodiversité. Pour déterminer les sujets sur lesquels on va travailler, il y a une consultation. Donc, en fait, nous, on consulte la communauté française et chaque pays consulte sa communauté pour faire remonter les sujets. Le sujet pollution et biodiversité, par exemple, c'est un sujet qui est remonté. Il se trouve que, donc là, on parle, vous connaissez, la plupart maintenant connaissent le GIEC. Là, vous venez de découvrir qu'il y a l'équivalent pour la biodiversité, ça s'appelle le GIEC de la biodiversité. Eh bien, cette année, il y a eu la première réunion d'un GIEC des pollutions. Donc, en fait, il va y avoir l'équivalent donc, de ces panels scientifiques qui vont travailler ensemble et ensuite avoir des politiciens.
Alors, il faut bien que les gens comprennent, c'est pas des assemblées de gens qui vont décider ou qui vont gouverner. C'est des assemblées faites pour essayer de savoir quelle est la connaissance, oui. L'état des connaissances de l'humanité sur ce sujet.
Exactement. C'est exactement donc le GIEC, l'équivalent du GIEC, mais pour la pollution. Et bien sûr, l'idée, c'est pas... que chacun travaille, comme on disait, en silo. L'idée, c'est de travailler ensemble. Donc, par exemple, au niveau français, comme nous, on anime le GIEC de la biodiversité, on travaille aussi avec le GIEC de la pollution, on fait aussi des liens, on travaille aussi avec le GIEC du climat. on essaie aussi de travailler ensemble au maximum pour que ça ne reste pas en silo. Mais il y a aussi des groupes qui s'intéressent à ces sujets et donc on travaille ensemble pour travailler à l'interface entre biodiversité et pollution, par exemple.
Et il y a plusieurs façons, je pense aussi, de faire remonter quels sont les besoins de recherche auprès de la communauté scientifique. On a beau faire remonter des besoins, ça reste le souci d'une mise à l'agenda politique. Et donc, on fait au mieux pour porter la voix de la recherche. Mais, par exemple, à la fin, nous, d'un programme de recherche, ce que j'ai fait, il y avait la fin d'un programme de recherche de 4 ans sur les liens de biodiversité climat. Donc, avec les 21 porteurs des projets qui ont étudié ces sujets pendant les 4 dernières années, on a fait un exercice de prospective. Donc, au début des projets, vous avez construit vos projets par rapport à ces besoins-là identifiés. 4 ans après, est-ce que ces besoins ont été couverts ? Aussi par rapport à ceux identifiés au niveau, à l'échelle mondiale par l'IPBES. Et sinon, quels seraient aujourd'hui, en fait, si on remet à jour les besoins suite à votre recherche? Et cela, on les fait remonter auprès de ces instances-là et aussi à l'échelle européenne. On a nos points relais.
Et ça, c'est publié. Il y a moyen de savoir. Pauline, ça te fait un sujet à proposer à Sciences et Avenir.
C'est vrai.
Les urgences de la biodiversité, un classement, on peut aller vous voir et...
pour le coup, la fondation...
Qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, pour ça pour,
à
pour
la
résumer.
Fondation, on a une mission de communication où on communique beaucoup sur les sujets émergents. Le dernier sujet pour nous qui est très important, c'est suite au rapport IBES, ce fait que tout est lié, qu'il faut arrêter de travailler en silo. Donc, on a publié là-dessus. Là, le prochain rapport IBES, ce sera sur l'IPBES, ce sera sur le lien entre biodiversité et entreprise. Donc là, ça va être aussi quelque chose d'intéressant parce que leur...
Quand on dit entreprise, on dit activité économique.
Oui, c'est ça. Donc en fait, il n'y aura pas de... Et c'est aussi le sujet de l'an dernier, les changements transformateurs. C'est des mots un peu clés maintenant où on se dit, en fait, il faut qu'on change nos manières de faire si on veut pouvoir préserver la nature. Donc il y a des gros changements profonds à faire. Donc, notamment dans les entreprises, en fait. Il faut que ces entreprises voient les choses. Donc là, ça, c'est le sujet de la prochaine plénière de l'IPBES en février. On discutera de ce sujet.
Ah ben voilà, on fera une transition. Et il y a une prochaine COP. C'est pas en Arménie, justement?
Alors ça, c'est la COP.
Nous expliquer bien la différence. on va affûter nos arguments et nos idées. Après cette petite pause musicale.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Mmh.
put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine.
Eh bien, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie. Alors, vous avez tous reconnu naturellement Nina Simone. Tout le monde était unanime autour de la table pour dire que c'était quand même un très bon choix de Sabline. Alors, Sabline est donc Gen Z qui a fait un choix de musique de boomer qui nous aura ravis. Et puis, en préparant l'émission, je n'avais pas fait le rapprochement. Mais Nina Simone est enterrée à côté de Marseille dans un village qui s'appelle Carry-le-Rouet. Et elle est morte l'année de la naissance de Sabine. Donc la transition entre boomer et Gen Z s'est faite toute seule. Mais bon, on n'est pas une émission de musique. Hein. Donc, oui, alors, comment on peut rentrer dans les détails? On en était sur la hiérarchie des priorités. Comment demander aux scientifiques de bosser sur les sujets qui nous paraissent urgents et puis permettre aux scientifiques d'expliquer aux politiques que les priorités sont celles-ci ou celles-là? Donc ça, c'est un peu votre boulot, quoi.
Totalement, c'est totalement notre boulot. On parlait juste avant la pause, on parlait des COP. Alors du coup,
ah oui,
parce qu'on
ça,
se mélange
oui.
La COP, le GIEC, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc, tout à l'heure, on parlait de cette interface sciences politiques, donc les scientifiques, les politiciens. Soit les choses peuvent se passer vraiment au niveau des politiques. Donc là, c'est le but des COP. Les COP sont vraiment au but. Donc là, ça réunit les parties et ils ont des discussions vraiment politiques. Et ils peuvent parfois, c'est le but aussi, se référer aux scientifiques. Et là, dans ces cas-là, ils vont se référer au GIEC, dont on parlait tout à l'heure, au GIEC de la biodiversité. Donc là, ils vont essayer d'utiliser les rapports du GIEC pour leurs discussions purement politiques. Les COP, il y en a trois styles. En fait, il y en a beaucoup de styles, mais il y en a trois majeurs. Donc on entend toujours parler de la COP climat, hein, qui commence dans quelques jours. Ça a lieu tous les ans. Cette année, c'est au Brésil. Ensuite, il y a aussi deux autres styles de COP. Il y a aussi des COP sur la biodiversité, donc on en parlait tout à l'heure. C'est tous les deux ans. Donc on en a eu une l'an dernier en Colombie et l'an prochain, ça sera en Arménie. Donc c'est tous les deux ans. Et il y a également des COP désertification. C'est également un des trois gros sujets, climat, biodiversité et désertification. C'est les trois COP majeurs. Après, il y a des COP aussi sur plein d'autres sujets, en vrai. Donc, c'est vrai que le mot COP peut On peut vite. Ah, ben, COP, c'est climat, mais non, c'est plein d'autres sujets, et c'est ces trois sujets majeurs.
Et puis ça veut dire conférence des parties. Donc,
exactement, c'est conférence des parties. Donc après, il y a la CDB COP, il y a la CNUC COP, enfin voilà, il y a plein de petits mots avant, parce qu'il y a des petits styles. Et l'an prochain, du coup, eh bien, on aura trois COP en quelques mois. La COP biodiversité en Arménie, la COP climat, et il y a la COP aussi donc désertification en Mongolie à quelques mois. Et le but, c'est un gros sujet en ce moment, c'est vraiment de créer une synergie en fait entre ces COP, parce que comme on disait, tout est lié. Le mot un peu à la mode dernièrement, c'est ce mot nexus en fait, qui est le nexus qui veut dire le lien en fait, les liens entre des éléments. Et en fait, tout est lié, la désertification, le climat.
Donc nexus, c'est ça, c'est les liens entre exactement. Les choses, c'est voilà. Les relations,
les
c'est le voilà.
Ouais, exactement.
Donc, il faut qu'on popularise ce terme parce qu'il y a un nom, ça fait un peu nom de sous-marin, ce
oui,
nexus.
Oui, voilà, mais retenez bien, nexus, c'est le mot à la mode. Vous le verrez désormais, vous direz ah, je m'en souviens ça, on en a parlé à l'émission radio.
Chloé, tu voulais dire non.
Si, par rapport à ça, là, on parle beaucoup de la mise à l'agenda politique des besoins de recherche, mais donc qui est aussi un des aspects de notre cœur de métier. Mais le deuxième, c'est aussi sur la valorisation en fait de toute cette production de connaissances. Comment on rend accessible tout ça, parce que ni les décideurs, mais ni les acteurs du terrain, ni nous-mêmes aussi autour de la table, on n'a pas le temps d'aller lire les innombrables articles scientifiques qui sont produits tous les ans. Donc à la fin d'un programme de recherche, on organise une conférence finale qui est grand public, mais qui reste axé à un public scientifique plus ou moins. Mais on explore aussi d'autres productions pour valoriser toutes ces connaissances scientifiques innovantes auprès de différents publics. Par exemple, auprès d'un public de décideurs, on a une actualité à la suite du programme qui explore les liens biodiversité-climat dont je parlais juste avant. On a publié hier trois synthèses des résultats des recherches des 21 projets qui ont été notamment traduites en français et que vous pouvez retrouver sur le site de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. On fait cet effort de traduction parce que, en fait, même dans les ministères, aux différents pays européens, tout le monde, il y a quand même cette barrière de la langue, en fait, d'accessibilité des produits en anglais. Donc on fait cet effort-là au maximum. Et donc ces notes d'information, d'intention, ce ne sont vraiment pas des recommandations figées, mais on essaye de montrer ces traductions
donc
concrètes de la science.
Donc vous avez aussi une mission de vulgarisation à la Fondation et au partenariat.
C'est ça, on ne présente pas comme de la vulgarisation grand public, ça reste ciblé, mais cette mise à disposition de la recherche. Toutefois, on commence à explorer dans le partenariat des vulgarisations plus larges. Et donc, j'ai notamment ramené pour les personnes qui sont dans la salle, et sinon en ligne, vous pourrez les trouver sur le site de Biodiversa Plus et de la Fondation également, sur les résultats de ces 21 projets de recherche. Et aussi parce qu'on a envie d'explorer de plus en plus une autre interface qui est celle Art Science, et d'investir en fait d'autres espaces de dialogue.
Vous savez que c'était un des thèmes une des dernières émissions sur l'océan. C'était l'art pour réconcilier la science, avec une de nos chroniqueuses régulières, Nicole King, qui est très mordue sur le sujet.
Mais c'est ça tout à fait, ce qu'on se rend compte, c'est pas aujourd'hui les informations qui viennent changer, même la psychologie environnementale le dit, donc comment on fait pour investir ce champ culturel, ce champ des valeurs et des émotions, oui. Et explorer autrement, et rendre accessible, et pouvoir expérimenter autrement, en fait, ces connaissances scientifiques, et sortir aussi la science de ce savoir, de ces publications scientifiques. Et donc, on a publié trois petites bandes dessinées qui explorent ces travaux. Et les scientifiques ont été, enfin, ceux qui voulaient prendre part au processus, mobilisés à plusieurs étapes de la rédaction.
Bah, on va regarder ça avec grand intérêt.
Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner des exemples des projets de recherche qui ont été vulgarisés, justement, pour donner envie d'aller les voir?
Oui, bah, bien sûr. Bah, dans les... ce qu'on dit tant dans ces notes d'intention qui ont été publiées cette semaine que aussi dans les BD, il y a plusieurs projets qui sont mis en
avant. Alors on va commencer par les
mangroves.
BD parce qu'on va y aller progressivement.
Non, mais ça se recoupe parce que ce sont les mêmes. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est les mêmes données en fait, mêmes informations qui sont divulguées.
Alors Chloé,
près de différents publics.
Là, l'heure tourne, il faut nous donner des exemples.
Eh bien, on peut voyager par exemple dans les milieux côtiers pour aller explorer comment les mangroves permettent une meilleure protection et adaptation au changement climatique.
Mais là, il faut aller dans la France tropicale.
Faut aller plus loin, sinon on peut aller plus proche. On parlait d'agriculture avant, il y a une petite BD qui s'appelle Le Code du Blé et donc explore les notions vraiment d'agriculture durable, de santé des sols. On parlait tout à l'heure de la biodiversité microscopique, celle qui est cachée, comment on la prend en compte. Et la troisième BD, elle explore aussi davantage les forêts. On a dans les enjeux biodiversité climat aussi, les forêts sont un écosystème crucial. Et après, on s'en rend compte aussi.
Mais vous nous mettez l'eau à la bouche. Nous qui sommes deux journalistes un peu spécialisés sur ces thématiques-là, je crois qu'on va aller vous voir très prochainement.
Ah, super, si on vous a convaincu.
Mais on a aussi accueilli, il n'y a pas longtemps, la tournée du climat, qui expliquait qu'il y a aussi une belle opération de vulgarisation, alors sur la thématique climat, comme son nom l'indique. Mais d'ailleurs, il faisait le lien climat et biodiversité. Je ne sais pas si vous connaissez notre invitée qui était Fanny Etibert, qui dirige cette tournée du climat et de la biodiversité. Mais bon, c'est intéressant de par émission successive, comme ça, de vous connecter. Mais bon, on vous fera une note. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, l'heure a tourné. On est déjà à la fin. Donc la semaine prochaine, ce sera une émission particulière aussi sur les compétences à faire valoir en tant que salarié, sur les compétences vertes. Est-ce que ça permet d'aider à se faire embaucher que d'avoir des compétences vertes indiquées sur son CV? Bon, il me reste à vous remercier, Nathalie Morata et Chloé Durieux, j'ai failli, parce qu'on a un autre chroniqueur qui a un nom qui ressemble un petit peu. Mais bon, et puis aussi remercier Armand qui a magnifiquement opéré derrière sa vitre. Bon, tu as appris beaucoup de choses sur la biodiversité, ça t'a passionné? Eh bien, tu reviendras la semaine prochaine, comme tous les auditeurs. Donc, je vous souhaite une bonne semaine à tous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.